Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce rendez-vous quotidien destiné à mieux vous faire connaître les artistes qui se produisent cette année au Festival de Rocamadour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer pour la première fois la mezzo-soprano Eva Zajcik, qui est en concert ce dimanche 25 août à 19h au château de Latrenne avec le violoniste David Aroutounian et la pianiste Xenia Malyarevitch. Le trio y donne son programme Mayrig, qui signifie « petite maman » en arménien. Nous allons y revenir. Bonjour Eva Zajcik, vous faites vos débuts au Festival de Rocamadour, mais je crois que vous connaissez déjà cette manifestation et les lieux où elle se déroule.
Oui, absolument. Alors je crois que ce n'est pas en fait ma première intervention au festival. J'y ai interprété un programme que j'ai enregistré il y a peut-être une quinzaine d'années avec mon ensemble, l'ensemble Lunaris, que j'avais monté avec deux amis, Anaïs Bertrand et Mélisine Depas, quand on venait de se rencontrer à la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Donc on était en 2009 peut-être, quelque chose comme ça. Et on avait fait un concert, mais le festival n'avait pas autant d'ampleur à cette époque.
C'était à la Basilique à l'époque, à la Basilique de Rocamadour ?
Il me semble bien, oui.
Alors donc ce sera la découverte, peut-être que ce sera en revanche une découverte au château de Latrenne. Donc.
Ça c'est sûr, absolument.
Alors il y a une chose aussi, c'est que vous n'êtes pas une inconnue pour les amateurs d'art lyrique de notre région, puisque vous êtes depuis déjà quelques années une habituée de la programmation de l'Opéra National du Capitole de Toulouse. Et je voudrais pour commencer qu'on revienne sur votre parcours, parce qu'il est plutôt original et même assez singulier pour une artiste lyrique. Vous n'avez pas fait vraiment au départ la formation classique d'une future chanteuse d'opéra, vous avez même chanté dans un groupe de rock lorsque vous étiez adolescente.
Oui, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon parcours est tout sauf classique. Alors, j'ai en revanche toujours chanté. Je crois que je chantais avant de parler et je devais un peu casser les pieds de mes parents. Donc, ils m'ont inscrite dans une chorale vraiment sans prétention où on chantait autant Bach que les Beatles et du Haydn ou bien voilà des chansons plus populaires. Mais en revanche, je n'ai jamais appris à lire la musique. Donc, j'ai toujours chanté, mais sans savoir lire la musique. Et quand j'étais adolescente, effectivement, j'ai eu un groupe de rock avec mes amis de collège, lycée. Nos influences étaient vraiment multiples, du ska au rock indépendant, au jazz, à toute forme de musique. Chez moi aussi, on écoutait, mes parents ne sont pas musiciens, mais très mélomanes. On écoutait de la musique classique, orchestrale, de l'opéra, du jazz, de la musique du monde, vraiment de tout. Mais je sais pas, j'ai toujours eu un problème avec les maths et j'ai toujours vu le solfège comme quelque chose qui me faisait peur. Bon, alors, je ne sais pas à quoi ça tenait, mais j'ai toujours refusé de faire du solfège. C'est bien dommage parce que une fois que j'étais dans le parcours professionnel, je m'en suis un peu mordu les doigts. Donc, voilà, groupe de rock. Moi, je me suis toujours destinée à être médecin. Je suis issue d'une famille de médecins et c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, d'être dans le soin. Donc, après mon bac scientifique, j'ai entamé des études de médecine et j'ai mis entre parenthèses mon groupe de rock. J'avais commencé aussi à chanter au conservatoire de ma ville, mais vraiment tout à fait en dilettante, parce que comme je vous le disais, je ne savais pas lire la musique, donc je passais peut-être 3 mois sur un morceau, ça n'avançait pas très vite. J'ai eu mon année de médecine, mon concours, et en fait j'ai fait une dépression d'avoir arrêté la musique et d'avoir arrêté de chanter. Cela s'étant couplé à une rupture amoureuse de ma première grande histoire d'amour, une jeune femme. Et j'ai, sur un peu un coup de tête, décidé de me lancer dans la musique classique. J'étais donc au conservatoire et ma prof du conservatoire à l'époque, je lui en parle, elle me dit « Bon, bah écoute, si tu veux faire ça, va t'inscrire à la maîtrise de Notre-Dame de Paris, c'est une très bonne formation pour chanteur professionnel. » J'ai dit « Bah très bien, allons-y. » Donc j'ai été passer le concours. Encore une fois, je ne me rendais pas du tout compte que j'avais pas du tout le niveau pour prétendre à rentrer au cœur d'adulte, qui a une formation professionnelle. Donc, ils m'ont vu arriver en ne sachant pas mettre un do ou un sol sur une portée. Je rappelle que j'avais 19 ans, non, 20 ans même. Et ils m'ont dit, bon, bah, vous avez une très jolie voix, donc on vous propose de rentrer au jeune ensemble. Le cœur d'adulte, c'est pas pour tout de suite. Ce qui, évidemment, me convenait parfaitement parce que pour ma famille, il était hors de question de quitter des études de médecine pour faire un métier de saltimbanque sans avoir un diplôme universitaire. Donc, je devais de toute manière m'inscrire en fac de musicologie à minima, ce que j'ai fait. Ça m'a intéressée, mais il fallait évidemment aussi avoir un gros bagage musical et solfégique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'écriture, d'analyse musicale, donc j'étais complètement perdue. Mais j'ai passé mes 3 mois de musicologie à apprendre le russe et le cyrillique, qui m'a ensuite beaucoup servi dans la suite de ma carrière lyrique. Voilà, j'ai tout découvert à la maîtrise de Notre-Dame de Paris, dont j'y ai passé 3 ans, donc j'ai un ensemble puis au chœur d'adultes. Et ensuite, j'ai tenté ma chance pour le Conservatoire national de musique et de danse de Paris. C'était la dernière année que je pouvais passer. On m'a conseillé d'y aller, j'ai été reçue, mon grand étonnement. Là, encore une fois, j'aurais pu me faire jeter à cause du solfège, mais voyant que j'étais complètement perdue, j'ai chanté. Et je pense qu'on m'a repêchée en me disant, bon, celle-là, faut peut-être lui laisser une chance. J'ai été admise en cycle 1 de solfège pour chanteur. Et puis après, j'ai travaillé dur pour monter mon niveau de solfège et maintenant tout va bien. Donc voilà, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, je suis entrée en 2011 et j'ai rencontré ma professeure encore actuelle, Hélène Golgevit, à qui je dois tout. Et j'ai fait des années magnifiques, j'ai carrément fait licence, master, doctorat, donc un DAI. Et j'ai découvert en fait vraiment l'opéra en rentrant au CNSM, parce qu'avant, à chaque fois que je chantais, notamment à Notre-Dame, j'ai découvert la musique grégorienne, la musique médiévale, puis Renaissance, puis baroque. Et à chaque fois, je me passionnais pour tous ces nouveaux répertoires. Donc, j'ai voulu d'abord être choriste. J'ai ensuite voulu être chanteuse d'ensemble. Et puis, quand je suis rentrée au CNSM, j'ai découvert, en fait, vraiment l'opéra et le théâtre, qui est toujours quelque chose qui m'animait, que j'ai jamais pu rencontrer réellement, le théâtre.
Oui, ça c'est une question que j'allais vous poser. Il y avait cette envie de faire de la scène qu'il faut hein, pour faire de l'opéra, bien sûr. Il faut être aussi un peu comédienne. Vous avez cette envie depuis longtemps?
J'ai toujours eu envie de faire du théâtre, mais je pense que j'ai trop occupé quand j'étais petite entre le chant, la chorale, l'équitation, le judo et tout et tout. Je faisais trop de choses et donc il a fallu faire un choix et je n'ai pas fait de théâtre. Mais bon, c'était vraiment là. Donc j'ai enfin pu m'exprimer et... Une fois entrée au CNSM, et c'est effectivement une part très importante de mon amour pour l'opéra, c'est la scène, évidemment.
Oui. J'évoquais au début de cet entretien le fait que vous êtes connu des amateurs d'art lyrique de notre région pour vous être produite à plusieurs reprises à l'Opéra National du Capitole de Toulouse. C'est une maison qui tient une grande place dans votre carrière?
Oui, c'est une maison extraordinaire et ça tient beaucoup à son directeur et à toutes ses équipes, à Christophe Gristy, qui fait vraiment confiance aux jeunes chanteurs français, ce qui est assez rare finalement en France et qui m'a vraiment donné ma chance, qui m'a offert des rôles de premier plan et voilà, je le remercierai jamais assez. Il a toujours eu un coup d'avance en fait. Il a toujours vu en moi ce que j'étais capable de faire à 2-3 ans avant, alors que moi je me disais que jamais j'y arriverais. Il m'a offert des rôles magnifiques que j'espère pouvoir reprendre d'ailleurs pour les faire évoluer.
Il y a eu Célisette, il y a eu Célisette dans Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas.
Voilà.
Rosine dans Le Barbier de Séville.
Oui. Et la même année, il y a eu Carmen.
Il y a eu Carmen. Oui.
Et cette année, je viens de terminer, il y a quelques mois, Olga dans Eugène Onegin de Tchaïkovski. Donc moi qui suis plutôt abonnée à la musique baroque, là c'est vraiment un opéra qui me permet de m'exprimer dans du répertoire plus tardif, romantique, que j'aime tout autant. C'est une grande chance et j'espère que cette collaboration continuera encore très longtemps.
Il y a de fortes chances, parce que je sais que vous êtes dans les petits papiers de Christophe Gristy, effectivement. On va parler avec vous de ce programme Maigrig, que vous donnez donc au Château de la Traîne, ce dimanche à 19h. Mais tout d'abord, on va en écouter un extrait. Il s'agit d'une chanson de Parser Ganatian, intitulée Lullaby.
Oh.
Lullaby, berceuse, magnifique et poignante chanson de Parser Ganatchian, chantée avec beaucoup d'émotion par Eva Zajcik, accompagnée par le violon de David Arutunian et le piano de Xenia Maliarevitch, extrait du programme Meirig que vous donnez donc ce dimanche à 19h au château de Latraine, qui est situé, je le rappelle, sur la commune de Lacave. Meirig, je suis sûr que je ne le prononce pas bien, mais je le rappelle, ça veut dire petite mère en arménien. Et à ce propos, quels sont vos liens personnels avec l'Arménie? Est-ce qu'ils sont familiaux?
Et non, pas du tout, même si je me sens très proche de cette musique qui est pleine de nostalgie et qui rappelle l'exil. Et c'est une musique qui m'a tout de suite parlé, mais je n'ai pas de lien direct avec l'Arménie. C'est David Arutunian, donc le violoniste du projet, qui m'a contacté et qui m'a dit « Voilà, je t'ai entendu dans du répertoire russe et ta voix est celle qu'il faut pour interpréter la musique arménienne. Est-ce que tu voudrais bien qu'on fasse un projet ensemble ?» Je dis bah, « Avec grand plaisir, je ne connais pas cette musique. Merci de m'offrir cette opportunité. » Et donc, la genèse de cet album, Meirig, c'est les fils de Garbi Saprikian, donc, qui est un compositeur né en 1926, qui a donc 98 ans aujourd'hui, qui est l'héritier de Messian et de Komitas, qui a toujours fait vivre vraiment la musique arménienne, notamment en France, avec son chœur, sa chorale Sipan Komitas. C'était donc une demande de la part de ses fils pour son 96e anniversaire, interpréter une mélodie qu'il n'avait jamais entendue, en fait, qu'il avait composée, mais qui n'avait jamais été interprétée. C'est aussi une berceuse, d'ailleurs. Et donc, nous avons enregistré cette berceuse pour lui, qu'il a entendue pour son anniversaire. Et puis après cela, nous nous sommes dit, donc avec David Arutunian et Xenia Maliarevitch, qu'il fallait aller plus loin dans ce projet. En tout cas, moi, j'en avais vraiment très envie. J'avais envie de découvrir plus de musique arménienne. Et j'ai été, encore une fois, suivie par mon label Alpha et Didier Martin, que je remercie encore pour sa confiance, qui m'a laissé carte blanche voilà, pour faire cet album. Et donc, nous avons travaillé avec David et Xenia à la construction d'un programme qui fait dialoguer des compositions de Garbi Saprikian, de Komitas, autour de la figure maternelle, des chants d'amour, des berceuses, de l'exil, de la nostalgie du pays, mais aussi des chants de réjouissance. L'album se termine d'ailleurs par la petite suite nuptiale qui a été composée par Garbi Saprikian pour son fils Ara pour son mariage. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se mélangent.
L'autre question, c'est pourquoi Petite Mère? Alors c'est un programme qui est quand même très largement dédié, il me semble, aux femmes et aux mères arméniennes.
Oui, absolument. C'est effectivement un programme qui est consacré aux berceuses d'abord, autour de la famille, de la maman. Bon, moi, il se trouve que quand j'ai enregistré cet album, je venais d'avoir un bébé. Donc, j'étais très, très bercée là-dedans. Et il se trouve que David et Xenia sont aussi des parents de très jeunes enfants. Donc, on était très imprégnés de berceuses. Et puis, on est venu grossir ce programme avec d'autres mélodies de Comitas. Là, ce qu'on vient d'entendre, effectivement, aussi de Kanachan, qui est une berceuse que toutes les familles arméniennes chantent, et puis aussi de Akop Agabab dans une ode à la lune. Voilà, donc quatre compositeurs.
Voilà, donc les quatre compositeurs, c'est Comitas, Garbis Aprikian, Parser Kanachan et donc Akop Agabab. Il faut rappeler que l'Arménie, c'est vraiment une terre de musiciens et de grands musiciens.
Oui, oui, absolument. David et Xenia vont d'ailleurs faire paraître un album très prochainement de Khatchatourian. Cette musique est tellement profonde, on entend vraiment la voix de la terre d'Arménie, on entend les églises, les pierres qui sont restées muettes pendant des millénaires, et toutes ces musiques sont vraiment très imprégnées de l'histoire de ce peuple, de musiciens, de grands musiciens.
On a parlé, vous avez évoqué évidemment la figure que tout le monde connaît de Khatchatourian, mais je pense qu'il y a un personnage qui est vraiment très central dans la musique arménienne, c'est Comitas. Personnage fascinant d'ailleurs, qui est mort en France, si je ne me trompe pas.
Je vous fais confiance, je ne me souviens plus. Alors, effectivement, Comitas était un ethnomusicologue et il a été continuellement à l'écoute du chant de la terre d'Arménie. Il a été la voix de son peuple, en fait. Il est devenu presque le symbole des souffrances de son peuple, à la manière de Bartok ou Kodály en Hongrie et tout son travail d'ethnomusicologue. On a souhaité faire dialoguer dans cet album le père Comitas et Garbis Aprikian, qui ont tous les deux consacré leur vie à la musique arménienne. Le premier, donc Comitas, qui a permis de préserver et de mettre au jour les trésors de la musique populaire et religieuse. Et le second, donc Garbis Aprikian, qui lui a contribué à la faire connaître et à la diffuser beaucoup plus largement, notamment grâce à son cœur Sipan Comitas. Et voilà, tous les deux ont apporté leur pierre à cet édifice. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui parle très bien des pièces de Comitas, qui dit que la voix de la terre d'Arménie, de ses églises et ses pierres, qui pendant des millénaires sont restées muettes, aspirant au dialogue. Debussy, en écoutant la musique de Comitas, s'est agenouillé et a dit « Saint-Père, je m'incline devant votre génie ». Donc, même par les compositeurs de son époque, il était reconnu comme un très très grand compositeur.
Et je confirme qu'il est bien mort en France, il est mort à Villejuif en 1935. Comitas, un mot pour savoir un peu plus sur les musiciens qui vous accompagnent dans ce programme, David Arutunian et Xenia Maliarevich, est-ce qu'ils sont issus aussi du milieu classique, de formation classique à la base?
Oui, ils se sont d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, tous les deux rencontrés au Conservatoire National de Paris. Et voilà, ils travaillent en musique de chambre tous les deux depuis très très longtemps. David a fait partie de l'orchestre de Paris. Il l'a quitté il y a 2 ans pour se consacrer à des projets plus personnels. Et Xenia aussi est une grande pianiste qui a beaucoup de projets personnels. Voilà.
Voici un autre extrait du programme Mayrig, Lamento, un air de Garbis Aprikian. Lamento, un air composé par Garbis Aprikian, chanté par Eva Zajcik, accompagné par David Arutunian et Xenia Maliarevitch, extrait donc de votre programme Mayrig, qui a fait l'objet d'un enregistrement et d'un CD paru en 2023 sous le label Alpha Classique. Pour terminer, est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur votre agenda 2024-2025? Où va-t-on pouvoir vous entendre sur scène cette saison et dans quel rôle?
Alors oui, effectivement, pour débuter cette nouvelle saison, j'aurai le plaisir de commencer par un enregistrement avec Pierre Dumousseau à la baguette et l'Orchestre National de Lille. C'est un programme qui rassemblera une grande partie des créations de Célestine Gallet-Marié, qui est elle, me direz-vous, c'est la créatrice de Carmen. Et donc je vais faire un parcours de tous ces grands rôles. Elle a interprété, elle a été la première interprète de Mignon, elle a été l'interprète de Fantasio, mais aussi de beaucoup d'autres rôles d'opéra qu'on ne connaît plus aujourd'hui, de Grisard, Cohen, Poise, Massé, Defesse, voilà, des compositeurs que j'ai hâte de faire découvrir à tout le monde. Donc Célestine Gallet-Marié, qui était une femme qui a un caractère très trempé sur scène, voilà, puisqu'elle a été l'interprète de Carmen. Elle aimait beaucoup tous les rôles comme ça de femmes dans le style de Carmen, mais aussi des rôles pantalons comme Fantasio, notamment au Mignon. Donc ça, ce sera le tout début de la saison, début septembre. Ensuite, je partirai à Munich avec Thomas Engelbrook pour chanter la messe en fa mineur de Bruckner. J'aurai Mayrig à la Philharmonie de Paris, donc le 27 septembre. Et en parallèle, je travaillerai sur l'Uomo Femina de Galuppi avec le poème harmonique Vincent Dumestre et mis en scène par Agnès Jaoui. Nous serons à l'Opéra de Dijon début novembre, puis au Théâtre de Caen, à l'Opéra Royal de Versailles en décembre et enfin au Théâtre Real de Madrid en avril. Je ferai une tournée Requiem de Mozart parce qu'il ne peut pas se passer une année sans Requiem de Mozart dans mon agenda. Encore avec Thomas Engelbrook à Baden-Baden et Hambourg. Des Stabat Mater de Pergolèse, le concert de la Loge. Je ferai le concert de réouverture de Notre-Dame de Paris. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment hâte. Voilà, un immense événement pour tout le monde. Moi, y ayant chanté aussi plusieurs années, c'était un déchirement quand il s'est passé cet incendie à Notre-Dame, donc j'ai vraiment hâte d'être là pour la réouverture. Et ensuite, je fais une grande tournée Missa Solemnis un peu partout en Europe. Et enfin, je serai à Los Angeles, au Walt Disney Concert Hall avec Emmanuel Haïm pour un magnificat de Bach et un Dixit Dominus de Handel. Et la fin de la saison est encore un peu en construction. Mais donc une merveilleuse saison l'année prochaine.
Et oui, voilà un agenda, ma foi, extrêmement bien rempli. Un grand merci, Eva Zajcik, d'avoir bien voulu répondre à mes questions lors de cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes en concert avec le programme Mayrig ce dimanche 25 août à 19h dans les superbes jardins du château de La Traîne sur la commune de La Cave, en compagnie du violoniste David Arutunian et de la pianiste Xenia Maliarevitch. Je ne suis pas certain qu'il reste des places, mais au cas où, je signale que la billetterie est en ligne sur le site www.rockamadourfestival.com. Pour ma part, je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Présence demain à 13h30 pour un dernier entretien avec l'un des musiciens programmés lors de ce festival 2024. Merci de votre fidélité et très bon après-midi à tous à l'écoute de nos programmes.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupris.